autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour notre rendez-vous mensuel avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique qui vont nous faire partager les récentes découvertes qui les ont marquées. Nous sommes avec Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Antonio, bonjour à tous.
Philippe Pajot de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho. Bonjour Cécile. Et chers auditeurs, nous vous rappelons qu'il y a des numéros de ces magazines à gagner en vous manifestant sur le site de l'émission. Comme chaque mois, un menu alléchant et varié. Aujourd'hui, nous parlerons des très grands feux de forêt. Pourquoi sont-ils de plus en plus fréquents? Nous prendrons de la hauteur avec la matière noire contenue dans l'univers et sur laquelle les physiciens ne cessent de s'arracher les cheveux. Retour sur Terre avec les lois naturelles de l'alimentation dont la connaissance peut nous aider à mieux manger, et nous découvrirons aussi la toute dernière technologie numérique qui va révolutionner notre quotidien. De la Terre aux étoiles, il y en aura pour tous les goûts, c'est la science, c'est le monde, c'est la vie, bienvenue. Alors pour commencer cette émission, moi, il y a quelque chose dans l'actualité de la semaine qui a attiré mon attention. C'est un vieux sujet sur lequel j'aimerais avoir votre réaction. Le Conseil constitutionnel examine en ce moment la question des tests osseux sur les jeunes migrants. C'est-à-dire quand un jeune migrant arrive sans papier, s'il est majeur, il est renvoyé dans son pays. Et s'il est mineur, il est accueilli au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance. Et pour déterminer son âge, s'il n'a pas de papier, on fait des tests osseux, des radiographies de son poignet, et les médecins depuis des années contestent cette méthode qui d'après eux n'a pas de valeur scientifique puisque on compare ces radios à des atlas dits de Greulich et Pyle, des atlas établis dans les années 1940 à partir d'un nombre très réduit d'individus et surtout des individus, enfin disons d'ethnie très limitée, alors qu'aujourd'hui on peut recevoir des migrants qui viennent de différents pays et dont les radios n'ont plus aucune relation avec ces atlas, donc et pourtant détermine donc le sort, la vie d'un individu à partir d'une méthode pseudo-scientifique et contestée depuis des années. Donc le Conseil scientifique doit rendre sa décision le 21 mars. Alors quelle est votre réaction, Caroline? Vous voulez réagir?
Ce qu'on peut dire qui est le problème principal, c'est que cette méthode-là, elle est d'autant moins efficace que l'on s'approche de l'âge de la majorité,
c'est-à-dire donc que
c'est-à-dire le coup près, vous êtes majeur, vous n'êtes pas majeur, qui fait que vous basculez d'un côté ou de l'autre de la loi, de l'application de la loi sur les migrants, et ben c'est là où c'est pas précis, c'est-à-dire que plus vous êtes près de 18 ans, moins ce test-là permet de savoir si vous êtes prêt ou pas trop près de 18
ans.
Pour les très jeunes, ça marche mieux.
Et pourtant c'est moins utile. Parce
et là on n'en a pas besoin parce qu'un très jeune, évidemment, on se doute bien qu'il est très jeune.
Voilà. Et un très vieux aussi.
C'est pour ça que ça sert à rien. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins qui sont vent debout contre l'utilisation de ces tests-là de façon systématique.
Ouais, et on se base d'une méthode désuète pour décider de l'avenir.
De l'avenir d'une personne.
D'une personne. Alors Caroline, restons avec vous puisque vous parlez. Alors il y a un article passionnant dans Science et Vie sur les méga feux, les très grands feux, les incendies. Qui sont, paraît-il, de plus en plus fréquents, justement, comme nous le rappellent ces extraits de journaux télévisés.
Les pompiers australiens combattent le feu par le feu. Ce mardi, plusieurs dizaines de feux de brousse étaient maîtrisés, mais plus d'une cinquantaine d'autres restaient actifs et même hors de contrôle pour 17 d'entre eux. Les flammes ont détruit ou endommagé plusieurs centaines d'habitations dans un rayon de 1600 m².
Les flammes dévorent cette maison pendant que les pompiers tentent d'apaiser le feu. L'incendie, baptisé Campfire, ravage depuis plusieurs jours le nord de la Californie. Dans la ville de Paradise, 26 000 habitants ont dû être évacués en urgence.
Le commandant des pompiers d'Oleros en casquette rouge a lutté avec ses hommes durant une semaine contre le feu. Dans cette commune du centre du Portugal, plus de 80% de la forêt a brûlé. Les pompiers ont été débordés par la violence et la rapidité de l'incendie.
En novembre 2018, un incendie en Californie pendant 17 jours, 85 morts, 14 000 habitations détruites, 60 000 hectares brûlés. Donc ce genre d'incendie deviendra de plus en plus fréquent, c'est ce que dit l'article de Yves Sciamma.
Exactement, Yves Sciamma a fait une enquête parce qu'on est parti évidemment du constat et puis de l'actualité autour de ces incendies qui font beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Celui de la Californie était particulièrement marquant. Depuis, il y a eu l'Australie, on entendait dans le son, là, il y a l'Australie qui a brûlé aussi après une période de sécheresse et une période de canicule particulièrement marquée. Donc la question, c'est de savoir si ces méga-feux, eh ben, ils sont plus fréquents et surtout, est-ce qu'ils vont l'être de plus en plus ? Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est dans une situation paradoxale parce que globalement, sur la planète, ces 20 dernières années, les surfaces brûlées, elles ont plutôt diminué. On est à 25% de surfaces brûlées en moins.
Alors comment expliquer ce paradoxe ? Voilà. Il y a alors moins de surfaces méga-feux. Brûlées et de plus en plus de grands feux.
Exactement. Les méga-feux, alors on peut peut-être essayer de définir ce que c'est un méga-feu. C'est compliqué d'ailleurs parce que dans l'article, on a demandé à plusieurs scientifiques de nous donner une définition. Et alors, il n'y a pas un consensus pour donner une définition précise de ce qu'est un méga-feu. Ce que eux disent, c'est qu'on sait que c'est les 2 à 3% d'incendies les plus grands, les plus importants qui ont eu lieu sur un continent. Et que si on prend le continent européen, c'est généralement des incendies qui font plus de 1000 hectares, alors que si on va par exemple aux États-Unis, on est plutôt sur 10 000 hectares. Donc ce sont des incendies qui globalement par rapport à la région dans laquelle ils se produisent sont énormes, sont des méga-feux.
Mais ils sont rares en proportion par rapport au nombre d'incendies, mais ils sont beaucoup plus destructeurs. Dans l'article, on apprend que les méga-feux ne représentent que 3% des incendies, mais ils sont responsables de plus de 50% des surfaces brûlées.
Exactement, et ça va aller en augmentant, parce que les 25% de réduction dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont liés à un changement de mode de vie et de culture dans les zones qui brûlaient beaucoup avant. Dans les zones subtropicales arides, dans lesquelles il y avait une culture traditionnelle avec le brûlis et qui était très peu peuplée, là, elles sont de plus en plus peuplées, de plus en plus cultivées, donc là, ça diminue. Donc, mathématiquement, eh ben, la proportion des surfaces brûlées par les méga-feux, elle augmente. La proportion, elle augmente. Et puis, les méga-feux, ils vont aller dans des zones dans lesquelles les conditions climatiques se sont modifiées. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas forcément des zones dans lesquelles il était aussi possible, autant possible d'avoir des incendies. Et de plus en plus, les jours qui sont favorables au déclenchement d'un incendie, à cause de la température, de la sécheresse et du vent, ces jours-là vont en augmentant. Le nombre de jours vont
C'est
en
à
augmentant.
Cause du réchauffement climatique.
Le réchauffement climatique est un élément central dans l'augmentation des méga-feux, mais ce n'est pas le seul. Il y a clairement 3 facteurs qui jouent. Donc, la météo, le climat. Enfin, la météo pour le jour où ça va se déclencher, le climat global pour préparer le terrain. Et puis, il y a le combustible et l'allumette. Le combustible, c'est le bois. Le bois, mais aussi tout ce qui est sous les arbres, broussailles, si ce ne sont pas des forêts entretenues, où il n'y a pas de ramassage de bois.
C'est-à-dire on débroussaille moins aussi.
De moins en moins. Et il y a beaucoup de régions où les bois sont aussi très monolithiques. C'est-à-dire c'est une même essence. Par exemple, l'eucalyptus au Portugal, c'est une catastrophe. Ça brûle extrêmement bien. Si les forêts ne sont pas extrêmement bien entretenues, alors ça fait une réserve de combustible et il ne manque plus que l'allumette. Et là, l'allumette, eh ben, c'est l'homme.
C'est-à-dire son
comportement et le fait qu'il est tout près des forêts.
On apprend aussi qu'un des facteurs de risque, c'est qu'il y a de plus en plus de villes construites carrément au milieu des forêts, comme c'était le cas en Californie.
Oui, Paradise, la ville qui a été entièrement rasée, c'était ça. C'était comme un petit îlot d'humains en plein milieu d'une forêt. Sauf que les humains, il ne suffit de pas grand-chose pour déclencher un incendie quand on est dans ces fameux jours favorables. Un bout de verre cassé qui est par terre, qui fait un effet loupe, évidemment un mégot de cigarette. Bref, à tout moment, ça peut flamber et c'est ce qui se produit. Donc le combustible et l'allumette.
Et oui, et à l'attention de nos auditeurs africains, justement, il faut savoir aussi que 70% des surfaces brûlées de la planète se trouvent en Afrique.
Exactement, oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les 70%, ce sont les zones semi-arides. C'est ça. Là, ce sont plutôt des petits incendies. C'est plutôt des petits incendies. Les méga-incendies, ceux qu'on voit qui sont en pleine explosion, c'est en Australie beaucoup, aux États-Unis et en Europe. Et il y a une carte dans l'article où on montre justement un indice favorable aux incendies, les pourcentages d'augmentation de ces indices favorables aux incendies sur une carte. Et on voit vraiment qu'il y a quand même... Alors le sud de l'Afrique, c'est vrai, beaucoup, beaucoup la Californie, une grande partie de l'Europe, la France, l'Europe du Sud et l'Australie, l'Est de l'Australie. C'est vraiment des zones dans lesquelles ça va flamber de plus en plus avec des méga-feux.
Oui, Caroline, vous parliez des critères permettant de définir éventuellement un méga-feu. Alors un des critères possibles, c'est la vitesse de propagation. Oui. Donc on apprend qu'un feu déjà ultra rapide se propage à 5 km à l'heure, donc il ne suffit plus de marcher, mais il faut quand même courir hein, ouais. pour y échapper. Mais le plus grand incendie qui ait jamais eu lieu en Australie en 2007 se propageait à 19 km/h. Alors là, même en courant, sauf si on a un champion de course.
Ouais, puis on ne peut pas courir longtemps comme ça.
Olympique, on n'y échappait pas, très difficilement.
C'est un feu qui en plus a brûlé, il tient le record de durée, 72 jours. C'est l'incendie le plus long qui ait jamais eu lieu, qui ait jamais été référencé en tout cas. Et donc en 2007, vous l'avez dit, plus de 2 mois, plus de 40 000 mètres carrés qui ont brûlé. Donc kilomètres carrés qui ont brûlé, pardon. Et c'est vraiment un gigantesque incendie. Quoi. Voilà.
Le dossier complet est à lire dans le numéro de Science et Vie de ce mois. Donc passons sur un sujet nettement plus optimiste. La tour de Pise, la fameuse tour de Pise en Italie, connue pour son inclinaison, se redresse peu à peu, Mathieu Novak. C'est ce qu'on apprend dans un article de Science et Avenir.
Oui, ça c'est une bonne nouvelle, c'est que la tour de Pise a résisté, elle a résisté depuis sa construction, le début de la construction c'est 1173. Donc pas loin de 1000 ans, et on arrive là, ici, elle ne va pas tomber.
Oui, mais alors déjà, c'est même étonnant qu'elle ne soit jamais tombée d'ici
non,
là.
Non, mais
quand même,
depuis la construction, dès la construction, on a des traces que le chantier a été interrompu 5 ans après le début.
Alors, dans l'article, moi j'ai appris quand même que... si j'ai bien compris, elle a commencé de pencher alors qu'elle n'était même pas encore terminée. Donc on a continué, on a vu qu'elle penchait, on a continué la construction.
En fait, on a vu qu'elle commençait à pencher, donc sans doute pour ça, ça s'est arrêté une première fois. On a attendu une centaine d'années, sans doute pour que le terrain se stabilise, et on a recommencé. Mais elle a continué à pencher de plus en plus. Mais le chantier ne s'est pas arrêté.
On ne s'inquiétait pas de se dire, tiens, on va continuer, on va faire une tour penchée, elle va pencher.
On espérait que ça ne tombe pas. Mais en tout cas, à la fin, on s'est dit, bon, pour lui donner quand même un aspect qui est un peu... Quand on allait mettre les cloches en haut du clocher, qu'elle soit un peu plus droite, on a mis des pierres un peu plus grosses d'un côté que de l'autre. Comme ça, on a redressé artificiellement...
Ouais, c'est du bricolage à l'italienne. Hein, je peux en parler en tant qu'italien aussi. Mais ça marche quand même, hein, le bricolage à l'italienne. Mais alors, en ce moment,
là,
elle se redresse.
Marché.
Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle se redresse. Enfin, petit à petit, puisque là, on avait, il y a une vingtaine d'années, 26 ans, une inclinaison de 5,5 degrés, aujourd'hui elle n'est plus que d'environ 5 degrés.
Voilà, bon, donc déjà elle penche pas plus, de plus en plus. Donc le premier truc c'est qu'au moins elle tombe plus. Mais effectivement elle se redresse. Alors on a eu beaucoup de mal à la faire se redresser. On a d'abord essayé de mettre des gros contrepoints en béton assez disgracieux, ça n'a pas trop marché. Et donc après on a fait appel à une autre technique qui a, elle, par contre très bien marché. C'était entre 1998 et 2001. C'est-à-dire qu'on a mis des gros tuyaux et on a commencé à pomper la terre sous le côté le plus haut, en dessous, comme si on voulait, en fait, comme s'il y avait une sorte de cale qu'on voulait retirer.
Ah mais
donc
ça marche quand même.
Et ça a marché.
Ouais.
Mais bon, ça a pas marché. Ça a marché instantanément. Mais après, on voit que l'effet est sur le long terme. Et elle a continué à se redresser depuis.
Il paraît qu'il y a aussi une histoire de réchauffement de la pierre d'un côté et de l'autre qui lui donnerait, en somme, une sorte de forme de banane.
Je sais pas si c'est une légende urbaine, peut-être.
On va pas se lancer dans une interprétation psychanalytique de la chose, mais bon, c'est à lire dans Science et Avenir. Restons en Italie avec Zazie qui chante Pise.
Si ça tient toujours debout, c'est que le temps n'a pas d'emprise. C'est comme ça. Parfois sur moi, les vents.
écoutez autour de la question « Pourquoi la science infuse et se diffuse ?» Donc nous n'allons pas tous les jours en Italie, mais nous mangeons tous les jours. Et Cécile Lestienne, le dernier dossier de cerveau et psycho consacré à l'alimentation, peut nous aider à mieux le faire. Nous sommes nés pour nous autoréguler, c'est le titre.
Oui, parce que c'est un dossier vraiment sur le comportement alimentaire. Ce n'est pas du tout un dossier de nutrition et diététique. Ce n'est pas pour dire que le régime brocoli framboise, c'est mieux que frites hamburger, hein. Voilà. Mais c'est vraiment comprendre nos comportements alimentaires, les bases de nos comportements alimentaires, pour effectivement comprendre ce qui se passe aujourd'hui et notamment faire face à notamment à l'épidémie d'obésité, de diabète qui règne sur la planète.
Oui, mais ces lois naturelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il faut écouter son corps pour mieux manger. Mais c'est pas exactement ça non plus, hein, quand on lit bien l'article, hein, puisqu'il ne faut pas non plus trop écouter ses émotions. C'est un petit peu complexe. Hein. Il faut écouter un peu, mais pas trop.
Voilà, c'est ça. Il faut écouter son corps et en même temps se rendre compte qu'on est dans un environnement qui est très très nouveau par rapport à l'environnement dans lequel notre physiologie s'est sélectionnée. Donc la base de nos comportements alimentaires est vraiment physiologique. Donc bon, c'est assez compliqué, ça met en place plein d'acteurs, les lecteurs de cerveau et psycho, on voit ça dans l'article, mais je vais essayer de, en simplifiant,
oui, enfin, en de donner juste les... quelques exemples. Hein. Par exemple, alors, si je puis me permettre, un exemple, moi, qui m'a vraiment étonné, c'est que vous dites, alors, si on ne veut pas trop manger, hein, il faut pas manger trop varié d'une certaine façon, puisque si on a beaucoup de plats différents, on va avoir tendance à manger davantage, alors que finalement les nutritionnistes nous disent qu'il faut avoir une alimentation très variée, donc c'est un peu contradictoire.
C'est pour ça qu'il faut comprendre comment ça marche. Quand vous comprenez comment ça marche, vous comprenez pourquoi il faut manger varié, mais pas trop varié. Voilà. Comment ça marche, voilà. La faim, ça marche parce que, à cause du glucose, vous avez une petite baisse de glucose, modérée, mais qui est quand même mesurable, hein, d'ailleurs.
La faim est FAIM.
Absolument. Didier Chaplot, qui a signé l'article, qui est professeur à l'université Paris 13, voilà, qui a signé cet article-là, raconte qu'il a passé des années à mesurer, hein, le taux de glucose chez des volontaires qui se faisaient piquer toutes les 5 minutes pendant des dizaines d'heures. Voilà, il faut participer à la science parfois. Donc, on peut mesurer cette petite baisse de glucose et ça alerte certains neurones de l'hypothalamus qui déclenchent le comportement de faim. Et par ailleurs, vous avez dans l'estomac, sécrète une autre hormone qui s'appelle la gréline. On a souvent dit que c'était elle qui donnait faim, c'est pas exactement, en fait c'est elle qui nous rend attentifs aux signaux extérieurs, et notamment en fait est-ce que vous avez à manger sur votre table ou pas, est-ce que vous sentez l'odeur de la frite dans le couloir, ce genre de choses. Donc vous avez faim, donc qu'est-ce que vous faites? Ben vous mangez. Voilà. Et au bout d'un moment, vous êtes rassasié. Alors vous êtes rassasié pourquoi? Justement parce que vos sens sont saturés, vous avez assez mangé, parce que votre estomac se dilate, et puis parce que des signaux de l'intestin et le nerf vague remontent à votre cerveau en disant voilà, ça suffit. Et notamment quand on dit que faut manger pas trop varié, parce que effectivement vos sens sont saturés à partir du moment où vous mangez toujours la même chose. Voilà. Après, ça peut vous redonner faim si on vous présente autre chose. D'où, effectivement, certains dangers du repas à la française. On fait entrée, deuxième entrée, plat, dessert, et on n'a jamais fini.
Voilà, alors, voilà. On peut être...
Et ensuite, je termine ça, puis après, voilà. Et ensuite, théoriquement, vous rentrez dans un état de satiété, c'est-à-dire que vous n'avez plus faim pendant quelques temps, et notamment à cause de deux autres hormones, l'insuline et la leptine, voilà, qui disent au cerveau que vous n'avez plus faim et que ce n'est donc pas la peine de manger.
Mais on apprend aussi, alors qu'il y a des expériences très instructives, par exemple, qu'on peut être trompé par nos sens. Si on mange dans une assiette plus grande, on mange davantage que si on mange dans une petite assiette. Ça peut paraître absurde, mais pourtant, c'est très sérieux, très documenté.
Absolument. Ce qu'il faut se rendre compte, ce que je viens d'expliquer, c'est la physiologie de base. Mais il y a des signaux extra-physiologiques qui jouent beaucoup sur notre sensation de faim. Voilà. Et en fait, effectivement, l'homme a évolué dans un environnement où il n'y avait pas à manger facilement. Hein. Quand on était chasseur-cueilleur, on n'était jamais sûr d'avoir à manger le lendemain. Et aujourd'hui, il ne vous faut pas plus de quelques minutes, à moins d'habiter, en tout cas dans les pays riches et développés, à moins d'habiter vraiment au milieu de nulle part, pour trouver des aliments, notamment gras et sucrés, à manger facilement.
Et on reste imprégné par nos réflexes archaïques. Hein.
Non, voilà. Et donc, on est très sensible à ça. Et donc, il y a des tas de petites astuces qui ont été... Ce n'est pas des astuces de gourou, hein, c'est toujours lié à à des expériences qui ont été faites et mesurées, voilà, pour essayer de tromper son cerveau et se dire que quand on a un problème de poids, pour, voilà. Et effectivement, si vous mangez dans des assiettes de 14 cm au lieu de faire de diamètre, au lieu d'assiettes de 26 cm de diamètre, eh bien vous mangez 25% de moins.
Est-ce qu'il faut également se méfier de la télé, comme le suggère cet extrait de la série Baby Food Stories ?
Je peux manger devant la télé ? Allez, rien qu'une fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Non.
Mais c'est un épisode spécial de Captain Chicken.
C'est pas vrai, j'adore Captain Chicken. Allons vite le voir.
Ah ouais ?
Non, je plaisante.
C'est pas juste, pourquoi on peut jamais manger devant la télé ?
Dans ce dossier de cerveau et psycho, nous apprenons aussi que des expériences scientifiques ont montré qu'il était dangereux pour la santé de manger en regardant la télé.
Ça ne mange plus si on mange devant la télévision. Alors ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que quand on mange en groupe, alors qu'on dit que c'est toujours bien de dîner en famille ou avec des amis, en fait c'est vrai que quand on mange avec des gens, on mange aussi un petit peu plus que si on mange tout seul en faisant attention à ce qu'on mange.
Oui, parce qu'on est distrait.
Ce qui n'est pas très gai.
Il faut se concentrer sur la nourriture pour en manger
voilà,
moins.
Voilà, c'est ça. Il faudrait manger en pleine conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Christophe André vous faire l'expérience du grain de raisin. Je vous recommande, et vous pouvez passer des heures à manger
c'est
un seul grain de raisin et prendre conscience effectivement qu'on peut être rassasié avec un seul grain de raisin, mais au jour le jour c'est pas très agréable et je pense pas que ça soit bien parce que vous allez sombrer dans la dépression, donc ça va, ce qui pousse à manger, donc ça va pas bien du tout. Mais en revanche, manger tout seul devant la télé, ça, il y a des études qui montrent qu'on ingurgite entre 50 et 80 % de calories en plus.
Et dernière information, enfin, puisque le temps leur tourne, effrayante, hein, c'est-à-dire celle qui parle de la nourriture light, consommer quotidiennement des boissons light augmente de 100% le risque d'obésité, de 50% la mortalité cardiaque, de 67% le risque de diabète, également de maladie d'Alzheimer. Oula, la nourriture light, c'est donc beaucoup plus dangereux que la nourriture pas light.
Ben, malheureusement, oui. On croit qu'on mange moins, de la nourriture light, mais ce n'est pas vrai. Et ça, surtout, ça dérégule le microbiote intestinal. C'est ça qui dérègle tout derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Non, il faut apprendre à manger mieux. Et alors là, on va rentrer à nouveau dans la nutrition et la diététique, mais des aliments que vous préparez vous-même et pas de la nourriture industrielle. Quand vous pouvez.
En tout cas, le dossier complet, très détaillé, est à lire dans le numéro de Cerveau et Psycho. Passons à un tout autre sujet, mais finalement qui est quand même lié, hein, puisqu'on parle de l'estomac au cerveau. Il y a des routes directes. Donc Philippe Pageot de la Recherche, vous consacrez un article ce mois-ci sur les multiples facettes de notre intelligence. C'est un vieux débat, hein, comment mesurer l'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence. On a parlé du quotient intellectuel, le fameux QI, avec ses limites, et évidemment.
Exactement.
Donc faites le point là-dessus.
Exactement, c'est même pas un article, c'est trois articles en fait, hein. C'est un gros dossier, l'autre dossier de une du numéro, qui a été préparé par notre journaliste Gauthier Cariou. Alors tout le monde effectivement connaît le QI, hein, ce fameux quotient intellectuel qui est censé mesurer l'intelligence. Alors il se trouve que c'est un outil de mesure performant pour prédire des choses comme la réussite scolaire ou la réussite professionnelle, mais en fait, on s'aperçoit qu'il manque pas mal de composantes, notamment ce qu'on appelle l'intelligence pratique ou la créativité. Ça, ce sont des composantes complètement absentes de cette
mesure. Et qui sont différentes. L'intelligence théorique pour résoudre un problème de maths est totalement indépendante et différente de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence pratique et de l'intelligence collective aussi.
Bien sûr. Et alors, justement, donc, tout ce qui est créativité, quelque chose de pas facile à définir d'ailleurs. Hein.
Et à mesurer, comment
à mesurer. Alors, la créativité, d'abord, c'est quoi ? C'est défini comme une capacité à engendrer des idées ou des productions nouvelles adaptées dans leur contexte. Ça, c'est ce que dit le psychologue, le chercheur en psychologie Todd Lubart de Paris Descartes. Et on arrive quand même à mesurer, en fait, à avoir des composantes, enfin, des tests pour mesurer cette créativité en essayant de d'avoir un, de, en fait de...
Oui, parce que le problème c'est ces tests, notamment le QI a été défini au début du XXe siècle hein, par un psychologue français, Alfred Binet.
Oui, tout à fait, ouais.
Et aujourd'hui, alors RFI, nous sommes écoutés partout dans le monde et il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, à juste titre, hein, que l'intelligence d'un Amérindien d'Amazonie n'est pas forcément et même pas du tout la même que celle d'un berger du Maghreb ou d'un écolier parisien, et alors qu'on a un seul critère unique, on tarde d'un siècle finalement. Ouais. Et vous faites alors, il y a des gens qui ont proposé d'autres mesures.
Alors voilà, donc par exemple pour la créativité, on essaie de mesurer la pensée divergente exploratoire, c'est-à-dire produire beaucoup d'idées différentes en fait à partir d'un stimulus, et la pensée convergente intégrative qui est produire une idée originale à partir de multiples stimulus. Et concrètement, donc il y a des tests qui permettent de mesurer ce genre de capacité, et en fait on s'aperçoit que c'est des choses qui sont assez décorrélées de ce qu'on mesure avec le QI.
Oui, alors donc ça reste encore à développer hein, dans les laboratoires de psychologie, hein, c'est ce genre de
tout
mesure
à fait.
De l'intelligence.
Alors également dans le dossier, on a un article consacré à la métacognition, et donc là c'est quelque chose...
Qu'est-ce que c'est la métacognition?
Donc ça c'est la tour de contrôle des processus cognitifs, l'intelligence de l'intelligence en quelque sorte on pourrait dire, et ce qu'on explique dans cet article c'est que c'est une capacité qu'on peut entraîner également, pas de manière très facile, mais à condition qu'on explique bien comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose qu'on peut entraîner. Et on constate d'ailleurs que c'est un meilleur indicateur de performance que le QI, la métacognition, ce qui est assez intéressant.
Pour tout savoir sur les multiples facettes de notre intelligence, donc ce dossier de plusieurs articles à lire dans le dernier numéro de La Recherche, puisqu'on parle d'idées nouvelles et de la façon de gérer, de concevoir le monde, justement. Parlons de ce fameux mystère, la matière noire. La matière noire qui est un défi pour les physiciens et auquel le numéro de Science et Avenir consacre, alors là, un vraiment très détaillé dossier, très détaillé ce mois-ci, Mathieu Novak.
Oui, on est rentré dans le cœur du dossier, le dossier tout noir, parce qu'on rencontre des astrophysiciens qui nous disent, notamment Françoise Comte, que la discipline connaît une véritable crise. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent faire de l'astrophysique, mais on a plus de questions que de réponses.
Oui, alors rappelez-nous de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est la matière noire?
Alors le problème, il est très simple, c'est que vous regardez l'univers, qu'on étudie quand même depuis très longtemps, et bien à 95% il nous est inconnu. Ce qui brille, ce qu'on peut voir dans le ciel, ce qu'on étudie, ça représente à peu près 4,9% du contenu du cosmos. Le reste... c'est quoi? C'est 25%, c'est de la matière noire. C'est une matière dont on a besoin pour expliquer les grandes structures de l'univers. Mais qu'est-ce que c'est de cette matière?
Qu'est-ce que c'est cette matière?
Sous quelle forme? Où est-elle? On sait
pas. Alors, on ne peut pas la voir, mais on pourrait l'étudier par différents procédés. Et pourtant, les physiciens s'arrachent les cheveux depuis longtemps.
Les simulations révèlent qu'une matière cachée sculpte notre univers depuis des milliards d'années. Mais y a-t-il un moyen de prouver que c'est bien ce qui s'est passé dans la réalité?
Si on ne voit pas cette matière noire et qu'on ne sait pas de quoi elle est faite, est-on vraiment certain, au moins, qu'elle existe?
L'enjeu est énorme parce qu'il s'agit de dire de quoi est constitué l'univers. On ne peut pas rester pendant des décennies avec une physique qui ne sait décrire qu'une toute petite partie du contenu matériel de l'univers.
On vient d'entendre le physicien Étienne Klein, justement, alors c'est un constat très dramatique, c'est-à-dire on a une physique très élaborée qui nous permet de faire des tas de choses, et pourtant elle ne décrit qu'une infime partie de l'univers.
On a un modèle qui fonctionne très bien, qui est très cohérent, qui permet de tout expliquer, mais le problème c'est que... Il y a 95% de choses dedans, on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a la matière noire dont on parlait, et il y a aussi une autre chose qui s'appelle l'énergie noire. Donc c'est quelque chose qu'on a découvert il y a beaucoup plus récemment. La matière noire, c'est dans les années 70, donc ça reste assez récent. Et là, c'est en 98, en observant des astres qu'on appelle les supernovas, dont on connaît bien les caractéristiques, on s'est aperçu qu'elles étaient plus loin que ce qu'on avait calculé. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'on s'est trompé sur la façon dont l'univers... augmente, dans l'univers s'étend. Parce que l'univers est en train de s'étendre en permanence. Mais il le fait pas de façon homogène, il le fait de plus en plus vite. C'est ce qu'on appelle l'accélération de l'expansion. Et pour ça, il faut une énergie. Et la source de cette énergie, on la connaît pas non plus.
Il y a des projets de recherche hein, pour essayer de comprendre cette matière noire, notamment un beau projet enfin, qui porte un beau nom, Eros, expérience de recherche d'objets sombres, hein, qui part à la recherche d'astres noirs dans la Voie lactée. Donc alors ça, c'est...
Là, on a beaucoup de projets. La matière noire, elle est faite de différents... Donc on pense de petites particules, donc on a des méthodes directes, oui, essayer d'observer des méthodes indirectes.
Et c'est particulier. Alors justement, on découvre ça aussi dans votre dossier, il y a les WIMP. Qu'est-ce que c'est?
Oui, les WIMPs, alors c'est un acronyme pour un terme anglais qui veut dire, si je le traduis, particules massives, indétectables...
Interagissant faiblement.
Interagissant faiblement. Merci, Philippe. Ouais. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est des
et WIMP, d'ailleurs, en anglais, ça veut dire mauviette aussi. Je ne sais pas s'il y a un lien, non. C'est peut-être une plaisanterie de ce scientifique américain.
C'est de la provocation pour qu'elle se révèle au grand jour.
Voilà. Donc, en tout cas, alors ces particules pourvues d'une masse...
Elles sont petites, elles ne brillent pas et elles n'interagissent pas. Donc c'est quand même un peu embêtant pour les détecter. Et pourtant, on estime que si elles existent, parce qu'on est quand même dans les hypothèses, il y en a à peu près 1 milliard de ces WIMPs qui traversent chaque mètre carré de la surface de la Terre chaque seconde.
Mais ça, c'est de la matière noire, alors.
Mais oui, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on met plein d'expériences sous les montagnes, on essaie de voir si elle ne peut pas cogner contre quelque chose et de laisser une trace, si on ne peut pas l'observer d'une manière ou d'une autre.
Si on comprend bien, alors nous baignons dans un monde parallèle de particules invisibles, noires, qui nous traversent sans qu'on s'en rende compte à notre insu. Et Philippe Pajot, oui.
Oui, ou alors, ces particules n'existent pas et c'est la physique qu'on ne comprend pas.
Un fantasme, alors.
Pas un fantasme, mais ça veut dire que les équations qui décrivent la physique sont différentes de celles qu'on a étudiées jusqu'ici, et du coup, elles pourraient aussi très bien ne pas exister. Oui, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on les cherche, ou 40 ans qu'on les cherche, et qu'on ne les trouve pas.
Oui, parce que, alors, en fait, d'ailleurs, c'est aussi ce qui est, disons, aussi détaillé aussi dans l'un des articles de votre dossier, dans Science et Avenir, c'est-à-dire... Puisqu'on ne les trouve pas on la trouve pas cette matière noire depuis tant d'années, peut-être que tout simplement il faut revoir totalement les modèles et puis partir du principe que ça n'existe pas. C'était une erreur que d'imaginer cette matière noire.
Oui, il y a un astrophysicien qui s'appelle Thomas Le Pelletier qu'on a interrogé qui décrit ça assez joliment en disant à partir de quel moment notre entêtement devient déraisonnable. C'est qu'on a une belle théorie, mais il y a un moment il faut peut-être passer à autre chose.
Oui,
et il y en a qui sont passés à autre chose. Donc il y a un autre astrophysicien, Gabriel Chardin, qui lui dit que matière noire et énergie noire, finalement, ce sont des éléments inélégants dans notre modèle standard. Donc, il part à la recherche d'autre chose. Mais autre chose, ça demande de repenser complètement la physique. C'est-à-dire les choses sur lesquelles on travaille, dans lesquelles on a mis toute notre énergie depuis plus d'un siècle, il faut repenser à tout. Donc, un des exemples, celle de ce monsieur Chardin, c'est de dire, s'il existait des objets qui ont une masse négative.
Énergie noire, matière noire, galaxie noire, trou noir, l'univers noir, c'est dans le numéro de Science et Avenir. Mais après les étoiles, nous allons revenir dans la tête. Tout court, mais auparavant, l'idéal. Qu'as-tu dans la tête ?
Qu'as-tu dans la tête ? Des murmures, des hurlements. Qu'as-tu dans la tête ? L'averse ou l'ouragan. Qu'as-tu dans la tête ? La braise ou les cendres. Qu'as-tu dans la tête ? L'éternité ou l'instant. Toute façon, je t'aime tel que t'es. Toute façon, je t'aime tel que t'es. Qu'as-tu dans la tête? L'authentique ou le toc, ouais. Qu'as-tu dans la tête? La colombe ou le tank. Qu'as-tu dans la tête? La lampe ou l'allumette. Qu'as-tu dans la tête, des filles ou des mecs? Toute façon, je t'aime tel que t'es. Toute façon, je t'aime tel que t'es. Qu'as-tu dans la tête?
Vous écoutez Autour de la question pour notre revue de presse mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique. Caroline Tourbe, dans le dernier numéro de Science et Vie, un article hallucinant sur les microbes de de l'esprit, du cerveau. Il y a des gens dont on dit qu'ils ont une petite hernie dans la tête, hein. Mais
ça serait bien une bactérie peut-être. En fait.
Dans cet article, nous apprenons que nous aurions tous des microbes dans le cerveau.
Oui.
Alors ça, c'est totalement révolutionnaire. Ah, ça... On peut déjà d'avoir un microbe dans l'estomac, c'est déjà. Bon, mais on le sait, on l'a de même, mais dans le cerveau.
Alors oui, donc c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler, on accepte de plus en plus l'idée que nous ne sommes pas seuls, que dans notre estomac, dans nos intestins, on a des milliards et des milliards de bactéries.
Ils sont très utiles d'ailleurs.
Exactement, ils sont utiles, ils dirigent pas mal des fonctions qui sont importantes pour notre organisme, voilà. Donc ça, le niveau de connaissance, les données sont assez bien établies sur ce point-là, mais voilà qui part, qu'on s'aperçoit que dans notre cerveau, il y aurait des traces visibles de bactéries. Alors elles seraient un peu partout, pas partout dans le cerveau, mais partout dans les cellules qui composent le cerveau, aussi bien dans les neurones que dans les astrocytes qui sont des cellules de soutien.
Il faut préciser
dans
que
les axones.
Ce ne sont pas des bactéries pathologiques, c'est-à-dire il ne s'agit pas de gens malades, puisque
non,
normalement
justement,
jusqu'à présent on pensait que
cerveau
c'était
avec
une
des
pathologie.
Bactéries, voilà. Si on disait bactéries dans le cerveau, ça voulait dire maladie. Et ça non, là c'est pas le cas. Ce sont des gens qui sont sains, qui n'ont pas de maladie, mais on a quand même repéré sur des photos, des clichés qui ont été montrés lors d'un congrès de neurosciences à la fin de l'année dernière, des clichés sur lesquels on voit ces bactéries. Alors, il y a toute une controverse autour de ces photos parce que, et de ces observations, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est ce sont des artefacts, autrement dit, des erreurs dans les manipulations qui feraient apparaître des traces bactériennes qui auraient contaminé les échantillons.
Voilà, et à confirmer.
Mais il semble quand même que cette fois-ci, ce soit vraiment des éléments assez solides, en tout cas pour lancer les recherches, essayer de voir si, en effet, on n'aurait pas, chacun dans nos têtes, un microbiote cérébral qui,
mais
dans
ce microbiote serait utile alors ?
Eh bien voilà, toutes les questions sont ouvertes du coup. Si ces bactéries sont bien présentes chez nous tous, à quoi est-ce qu'elles servent ? Est-ce qu'elles nous permettent de penser ? Est-ce qu'elles nous dirigent ? Et au fond, est-ce qu'on est non seulement des êtres de pensée, mais peut-être des êtres de pensée
des aliens dans le cerveau qui nous dirigent. Voilà. Et encore plus étonnant, alors, donc cet article parle du fait que ces bactéries pourrait provenir de l'estomac.
Oui,
alors
oui.
Déjà d'avoir des bactéries dans la tête c'est une chose, mais bah,
si
que ces bactéries viennent de notre intestin, oulala.
Alors ben c'est une possibilité en effet, parce qu'on sait que le microbiote de nos intestins interagit beaucoup via des nerfs, via des connexions nerveuses avec notre cerveau, et l'une des hypothèses c'est de se dire que peut-être le long de ces connexions, eh ben, il y a des bactéries qui ont réussi à remonter et qui colonisent notre cerveau. Bon, tout ça ce sont beaucoup plus de questions que de réponses, c'est des pistes
des
de recherche.
Hypothèses encore.
Disons que là la présentation de ces photos dans ce congrès de neurosciences a réouvert tout un flot de questionnements sur l'existence ou non de ces microbes dont on avait quand même déjà entendu un petit peu parler précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un peu des signaux, on avait vu des traces d'ADN, des choses comme ça qui semblaient montrer qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait. Bon, là, c'est une preuve un peu plus directe. Et voilà, à suivre.
Microbiote cérébral, c'est-à-dire dans Science et Vie. Changeons de sujet avec Philippe Pajot, ce dossier sur la blockchain. Alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, puisque moi, j'avoue en toute naïveté que j'ai eu du mal à comprendre, mais j'ai compris quand même que ça allait être très important, en tout cas pour tout le monde, qu'on le veuille ou non.
Ça devrait être très important en effet. Alors vous savez qu'on fête les 30 ans d'Internet ces jours-ci, hein, de l'invention d'Internet, et c'est une sorte de...
Les 30 ans du web.
Du web, ouais, pardon. Oui, du web. Merci Mathieu. Du
mais
web.
Alors la blockchain, c'est quoi exactement ?
Alors, d'abord, c'est une inspiration libertaire. C'est vraiment l'utopie libertaire en fait mise en...
Oui, oui, d'ailleurs les premiers, les créateurs d'Internet étaient des libertaires, hein, voilà. des anarchistes qui...
Exactement. Donc le
post-68 art, voilà.
Et le principe là, effectivement, qui a présidé aussi à la naissance de la blockchain, c'est cette idée-là. En fait, c'est une technologie qui permet de se mettre ensemble, de se mettre d'accord sans autorité centrale. C'est-à-dire on arrive à ce moment.
Mais pour faire quoi ?
On se met. Alors, d'abord, faut comprendre comment on peut se mettre d'accord s'il n'y a pas d'autorité centrale, puisque le principe qui nous gouverne aujourd'hui, c'est d'avoir une autorité centrale.
Déjà, on est quand même sur Internet, là. On n'est pas autour d'une table comme ça, donc ça marche. Donc, on se met d'accord avec des gens du monde entier.
Aujourd'hui, sur Internet, pour vous mettre d'accord, il y a une autorité qui vous dit que quand vous faites une transaction d'argent, par exemple, ou quand vous validez quelque chose, il y a une banque, une autorité centrale, un gouvernement qui dit d'accord, vous pouvez faire cette transaction.
Voilà. Alors en fait, c'est très basé sur les bitcoins, en fait, hein, monnaie virtuelle.
Au départ, effectivement. Mais alors, je reviens juste sur l'histoire d'autorité centrale, parce que tant que vous avez confiance dans cette autorité centrale, tout va bien. hein, puisque c'est vraiment elle qui garantit ça. Mais quand vous perdez cette confiance, il faut que vous puissiez avoir un processus en fait pour se mettre d'accord sans ça. Alors je vais vous expliquer comment c'est né. Vous allez comprendre ça. Donc c'est un informaticien anonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui est le premier a mis place ce qu'on appelle le Bitcoin. Il a résolu des problèmes d'informatique assez compliqués. C'est pour ça que vous dites que vous n'y comprenez rien, parce que l'informatique sous-jacente est quand même assez complexe. Ça fait appel à plusieurs domaines de l'informatique, qui sont la cryptographie, la sécurité informatique, l'algorithme distribué. Et il a résolu un problème qu'on appelle le problème de consensus ouvert. C'est-à-dire se mettre d'accord lorsque, sur Internet, lorsqu'il y a un nombre de participants.
Et concrètement, vous donniez l'exemple, enfin, dans l'article, ouais, de quelqu'un qui, par exemple, Albert, qui veut vendre une maison à Charlotte, qui habite à l'autre bout du pays. Et donc, cette blockchain permettrait d'organiser la vente sans passer par un agent immobilier, par exemple.
Tout à fait. Et le gros avantage de ça, c'est que, en fait, cette blockchain, c'est un endroit, c'est une sorte de cahier géant, infalsifiable, dans lequel il y a marqué cette transaction, cette vente, mais toutes sortes de transactions possibles. Et le gros avantage de cette technologie, c'est que il est partagé entre tous les utilisateurs, c'est qu'en fait tous les gens qui sont sur la blockchain ont accès de manière libre aux transactions, à ce qui s'est passé. Il est impossible à effacer, impossible à falsifier.
Donc c'est-à-dire, je vends une maison ou une voiture à quelqu'un, j'ai pas besoin d'une institution qui contrôle la bonne marche des choses, mais c'est toute la communauté qui va contrôler grâce à
ces technologies. Alors en dessous, il y a des technologies informatiques.
C'est effectivement très libertaire, c'est-à-dire il n'y a pas d'autorité. Voilà. C'est effectivement là, pour une fois, on revoit l'idéologie libertaire des créateurs d'Internet, qui a quand même été dévoyée par le commerce, qui en a été fait ultérieurement.
Bien sûr. Alors après, rien ne dit que ça ne va pas être dévoyé effectivement par d'autres personnes, mais en tout cas, pour la technologie sous-jacente, c'est beaucoup de la cryptographie. Alors il y a eu beaucoup de papiers ces temps-ci en disant peut-être que finalement la blockchain c'est pas aussi sûr que qu'on imaginait, et en fait c'est aussi sûr que les technologies informatiques qui est en dessous.
De toute façon, même si on n'y comprend rien, on va finir par le comprendre, et en tout cas les acteurs de Big Bang Theory, eux, ont leur mot à dire.
Je vais acheter des bitcoins, je dispose d'un peu plus de fric, mon père a augmenté mon argent de poche.
Tu n'es pas obligé d'acheter des bitcoins, tu peux aussi les miner.
Miner comme on extrait de l'or ?
Si on veut, c'est une crypto-monnaie en quantité limitée. On ne la trouve pas en creusant la terre, mais en se servant d'un ordi pour effectuer des calculs mathématiques complexes.
Donc si j'ai bien tout compris, il faut créer un programme compliqué pour trouver une monnaie virtuelle avec laquelle on ne peut rien acheter.
Oui, ça a l'air marrant.
Donc Philippe Pageot, alors donc la blockchain sera opérationnelle quand ça n'existe pas encore?
Alors si, c'est opérationnel. Hein, le paysage de la blockchain aujourd'hui dans le monde est quand même quelque chose d'assez étendu. Hein. Il y a 2000 crypto-actifs, crypto-monnaies qui existent. Il y a des centaines et des centaines de sociétés qui utilisent la technologie blockchain pour s'échanger avec des tas d'applications possibles. Par exemple, la validation des contrats, hein, on l'a dit. La validation des diplômes. Vous pouvez imaginer que les diplômes, ce ne soit plus une autorité d'université qui la donne, mais que vous ayez simplement une blockchain de validation des diplômes. C'est des choses auxquelles les gens réfléchissent. Pour la distribution de l'énergie, en fait, tout ce qui est...
Tout est décentralisé, d'une certaine façon.
Voilà, tout ce qui est sur Internet peut être mis sur une blockchain.
Donc, oui, Cécile Lessienne.
Moi, j'ai une question. Et combien ça coûte sur le plan énergétique, cette histoire?
Alors, il y a eu la première blockchain historique, qui est le Bitcoin, qui a été créée en 2008, a trop bien marché en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis dessus. Et en fait, pour valider les transactions, pour aboutir au consensus, il faut effectivement faire des opérations mathématiques qui coûtent de l'énergie. Et qui en coûtent de plus en plus. D'où le problème énergétique que tu soulèves. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a des nouvelles technologies qui ne sont plus des preuves de travail qui demandent beaucoup de calcul, mais qui sont beaucoup moins gourmandes en énergie. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la plupart des blockchains qui se créent aujourd'hui, se créent sur des modèles beaucoup moins gourmands en énergie.
C'est à lire dans le numéro de la recherche de ce mois-ci, la blockchain, une technologie de rupture. Cécile Lessienne, pour terminer l'émission, parlez-nous des travers, des pièges que peut nous tendre notre cerveau, et notamment dans des situations très dramatiques, par exemple pour des erreurs judiciaires, des erreurs de diagnostic médical. Donc on peut être victime de fausses interprétations de statistiques.
Oui, c'est Nicolas Gauvry et Tiffany Morisseau, hein, deux chercheurs qui se sont attardés sur le fait que notre cerveau, enfin nous sommes pas très bons en probabilité. Voilà. En fait, vous serez probablement assez bon pour savoir si votre copain Gérard, la prochaine fois que vous lui demanderez de vous aider à déménager, dira oui ou dira non. Ça, vous tromperez avec, vous tromperez probablement pas. Voilà. Mais quand on vous donne un problème de probabilité chiffrée, vous avez beaucoup plus de chances de vous tromper. Et il commence avec l'histoire absolument tragique et dramatique de Sally Clark, qui était une Anglaise qui, à la fin des années 90, a eu déjà le malheur de voir son premier fils mourir de la mort subite du nouveau-né, et puis c'est arrivé également à son deuxième fils.
Oui, donc c'est une Anglaise. Alors, elle a un enfant qui meurt de la mort subite du nourrisson, donc un deuxième enfant mort. Là, on se dit quand même, c'est bizarre statistiquement, il y a peu de chances que ça soit le fait du hasard, donc elle l'a tué.
Exactement, du coup elle a été inculpée, elle s'est retrouvée devant un tribunal qui a appelé un expert et ils ont demandé à l'expert il y a combien de chances pour que ça arrive dans une même famille deux fois de suite, et il a répondu 1 sur 73 millions, et donc le jury a déclaré qu'il y avait une chance sur 73 millions qu'elle soit innocente. Elle a été condamnée et effectivement c'était faux, et donc l'histoire était vraiment tragique.
Comment les statistiques peuvent-elles prouver...
Mais ça nous arrive tous les jours, parce que là évidemment c'est une histoire dramatique et heureusement on n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive tout le temps.
Mais là dans ce cas-là,
chez les médecins, chez les juges, ouais. Voilà, et parce qu'on a un
Quelle
biais.
Quelle était l'erreur statistique des magistrats, là ?
Le biais, c'est de ne pas avoir pris en compte ce qu'on appelle le taux de base. C'est-à-dire que parmi les jeunes femmes anglaises de ce moment-là, qui sans antécédent de violence et sans maladie psychiatrique révélée, combien y en a-t-elles qui sont susceptibles de tuer leurs enfants les uns après les autres ? Il y en a très peu. Donc, en fait, c'est très, très, très improbable que ça soit arrivé dans cette famille. Je vais vous donner un exemple un peu plus... plus facile à comprendre. Voilà, donc si vous êtes dans un pays où le taux de prévalence du sida est de 0,1%, donc une personne sur 1000 est touchée, hein, voilà. Et qu'on vous dit, voilà, on prend quelqu'un, on lui fait faire un test, le test est fiable à 99%. Voilà, donc le test est positif, quelle chance a-t-il d'être vraiment malade ? Alors, la plupart des gens répondent 99%, et en fait la bonne réponse c'est 10%.
Nous sommes abusés par de mauvaises interprétations des statistiques. Il faudrait donner des cours de statistiques aux magistrats et aux médecins, en tout cas.
Absolument,
c'est à lire dans
c'est ce qu'ils préconisent, parce que parfois c'est un problème
de cerveau et psycho. Je rappelle alors que tous les articles et reportages dont nous avons parlé ici sont à lire dans Science et Vie, la recherche Science et Vie, cerveau et psycho, que vous pouvez gagner des numéros en vous manifestant sur le Facebook de l'émission. Et merci à Philippe Pavot, ça y est, maintenant j'ai compris la blockchain, hein, grâce à vous. Caroline Tour, Mathieu Novak, Philippe Pavot, Cécile Lessienne, merci.
Plaisir.
Et rendez-vous dans un mois pour la prochaine revue de presse. C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation, Juliette Brault en coulisses. Portez-vous bien, restez curieux. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez Caroline Lachowski. Dans quelques instants, les infos sur RFI.